Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, c'est la philanthropie de l'ouvrier charpentier. Donc philanthropie toujours autour d'un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle Les bus de la honte, Jean-Marie Dubois et Malka Markovitch. Bon alors, il faut être quand même clair, hein, c'est pas une vengeance personnelle le bouquin, hein, parce que non. C'est vrai, vous avez écrit ce bouquin, vous êtes concerné parce que c'est votre famille, mais à travers ce bouquin, il n'y a pas de vengeance personnelle. Il se trouve que votre histoire familiale et l'histoire avec un superbe grand H et tout se mélangent, ce qui est tout à fait normal, puisque l'histoire nationale ou internationale, elle se fait par des individus et des humains. Donc, il se trouve que c'est vous qui étudiez la chose, mais je veux dire, c'est un croisement qui est évident, puisque c'est comme ça que l'histoire se fait aussi. Alors, on a vu un peu ce fameux colonel Lucien Nachin, avec un épitaphe extraordinaire. Alors, tout à l'heure, ce que j'ai lu, quand même, c'était pas très bien, hein, parce que c'était en vérité un extrait de l'histoire des enfants de troupes et des écoles militaires préparatoires. C'est pour ça qu'il trouvait qu'il était bien. Parce qu'il a fait son boulot, il a tué. C'est normal. Il a fait son boulot.
Et ce que vous avez lu, c'est signé par le général de Gaulle. Hein.
Oui, bien sûr. Oui, excusez. C'est vrai, j'avais oublié de le dire.
C'est De Gaulle qui a dit, il ne s'est pas sali.
Voilà, c'est ça. C'est fait lui-même et c'était très bien fait.
Il s'est très bien fait.
C'est quand même pas mal. Alors maintenant, je voudrais qu'on se penche sur où il a travaillé, bien entendu, ce que c'était que cette société des transports communs de la région parisienne. Qui deviendra en 49 la RATP, qui est une façon d'effacer un peu la mémoire. Quand on dit que c'est la STCRP, on ne fait pas forcément de rapport avec la RATP.
Les gens qui connaissent un peu disent la TCRP. Mmh. Et à l'époque, c'était un peu. Les gens étaient fiers d'être dans cette société, hein, parce que les transports, c'est comme la SNCF, c'est comme les cheminots. Enfin, il y a un truc comme ça. En deux mots, cette société a été créée en 21, c'est une société privée. C'est une société qui s'occupait à l'origine aussi des tramways. Il y avait encore des tramways dans Paris.
Les transports, quoi.
Le transport. Donc, à la tête, il y a une famille qui s'appelle...
Il y avait le métro ?
Ah, oui.
Il s'en occupait aussi ?
Non. Alors, c'était séparé. Alors, le métro, et ça, c'est... On l'oublie souvent, et d'ailleurs on ne le dit jamais. Moi, je suis parisien, on m'a toujours dit le métro, c'est Fulgence, bienvenue, etc. Oui. Non, le métro, c'est Baron Empain. Le vrai financier, c'est la famille Empain. C'est les Belges, mais ça fait mal, un petit peu mal dans le paysage de dire que le métro parisien a été financé par des Belges. C'est pas sérieux. Bon, enfin, la réalité, c'est ça. Quand est créé la STCRP, le métro et bus sont séparés. C'est deux sociétés séparées. Ils vont être les deux sociétés, donc je reviens sur les bus, donc les tramways disparaissent de même en 38, et donc cette société ne s'occupe plus que des bus, mais c'est très important, hein. Ils ont plus de 3500 véhicules, il y a des ateliers partout dans Paris, dont l'énorme atelier championnet qui existe toujours au championnet, on répare les bus, on en fabrique, enfin c'est vraiment une grosse entreprise.
Oui, il y a personnel, c'est quelque chose d'énorme.
Il y a 25 000 personnes, il y a dans les années fastes, juste avant la guerre, il y a 1 milliard de passagers qui sont transportés par an. Enfin c'est, voilà.
Il faut savoir, hein, c'est région parisienne.
C'est que région, c'est Paris et toute petite, première petite couronne, hein. Donc voilà, il y a 110 lignes de bus, enfin c'est un truc qui fonctionne. Si on regarde de plus près, qui ne fonctionne pas si bien que ça financièrement, puisqu'on se croirait un peu en 2016, les actionnaires sont extrêmement bien rétribués. Hein. Et ça, il y a quand même des soucis d'organisation, il y a quand même des bus qui fonctionnent mal, il y a quand même...
Il y a des mouvements sociaux dès 1938 qui sont réprimés de manière assez violente.
Voilà, il y en a même une en 28, enfin on sent, c'est quand même pas limpide non plus. Hein.
Oui, sachant que Nachin, il est déjà en partie là, puisqu'il est en train de grimper dans la maison.
Deux ans. La société a 2 ans. Donc, il est vraiment dans les balbutiements. Donc, il grimpe très vite. Il transforme les véhicules roulants. Enfin, tout ça avance bien. La guerre arrive. 39. On va dire tout va bien, c'est-à-dire que les bus sont réquisitionnés notamment
pour le transport,
pour
des,
le
troupes.
Transport des troupes.
Oui, comme on avait vu le taxi de la Marne à une époque.
C'est ça. Hein, tout, là, là, le,
dire,
le paysage.
Moi, j'avais fait juste un rapport.
Le paysage va bien.
Entre les deux, quoi.
Le paysage va bien. Va bien. C'est pas une rigolade, mais enfin voilà. Il y a l'exode. L'exode, les bus sont aussi mis à contribution, notamment tous les administrations, les papiers d'administration partent en province par bus. Les bus, vraiment, font leur travail républicain, si j'ose dire, comme il faut. Et puis, c'est la capitulation de juin 40. Et là, le trafic s'arrête.
Oui, parce que là, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de chauffeur, il n'y a plus de réparateur.
Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'essence. Enfin, les Allemands, servent tout.
Ce qui veut dire qu'il y avait plein de bus en province.
Alors, les bus étaient complètement éparpillés. Et voilà, avec l'exode, ils étaient partis dans toute la France. Donc, la direction, et notamment mon grand-père, se dit, bon, il faut qu'on rapatrie des véhicules pour reprendre le trafic dans Paris. Alors là, il commence déjà à négocier avec les Allemands, parce qu'il faut...
Il faut dire qu'il parlait très bien allemand.
Couramment l'allemand. Même ma mère me disait, mais...
On le prend pour un Allemand.
Les officiers allemands le prenaient pour un des leurs. Enfin, il y avait des trucs très, très troubles, d'ailleurs. J'aurais peut-être dû me dresser plus l'oreille à l'époque, mais bon, voilà.
Et donc, les bus sont ramenés à Paris, petit à petit. Certains sont en mauvais état. Et cette société voit tout de suite l'intérêt... non pas de, comme c'est souvent prétendu, que ces bus vont être réquisitionnés par les Allemands et pour la collaboration, non, que ça peut être vraiment une manière de faire refructifier la société, que les ateliers championnés, justement, peuvent servir à réparer les tanks allemands, les voitures allemandes, enfin que tout le personnel mécanique, etc., peut finalement être au service de l'occupation allemande et que ça peut être au service de plein de choses. Et très vite, il va y avoir des politiques de répression parce que la CGT était extrêmement puissante déjà avant la guerre, puisqu'il y avait déjà eu ces grèves et ces manifestations, parce que c'est une société vraiment qui était un capitalisme sans foi ni loi. Et les autobus ne sont plus à disposition pratiquement du public.
Il y a très peu de lignes en fonctionnement. Donc, quand Malka dit effectivement il n'y a pas eu réquisition, c'est-à-dire que le terme exact, c'est que les bus sont mis à disposition des Allemands contre rétribution.
Oui, mais c'est un bon gestionnaire, ça.
C'est un bon gestionnaire. C'est une société privée qui essaye de sauver sa peau dans un contexte politique qui a changé, hein, si on regarde ça très froidement. Cela dit, ça ne marche pas si bien que ça. Et justement, c'est là où le groupe Empain, avec le métro... jouent un rôle très important, c'est que eux sont dans la collaboration absolument jusqu'au cou et sont beaucoup plus tentaculaires.
Oui, après, c'est plus de la collaboration, non. C'est de la participation.
Parce qu'il
a le métro, mais il a l'électricité.
Oui. il a accès au pétrole, aux matières premières, tout ce qui peut faire fonctionner les bus. Et donc, notre gentil maréchal, le gentil gouvernement de Vichy, décide en 42 de faire fusionner le bus et le métro. Donc la STCRP et ce qu'ils appellent la CMP à l'époque, la compagnie du métro parisien, sur le papier, ça doit devenir une seule entité qui s'appellerait la CMP. En fait, ce n'est pas ça qui se passe. La STCRP qui était Quai des Grands Augustins, qui a été l'adresse de la RATP jusque dans les années 90, ne bouge pas, la structure ne bouge pas. Donc mon grand-père ne bouge pas, rien ne change. Et ils continuent, eux, à faire leur business avec les occupants, avec les Allemands. parce que ça arrange tout le monde.
Ils font des bénéfices qui peuvent aller pendant ces années-là, alors que le parc d'autobus a été réduit, qu'il y a beaucoup moins d'employés, que certains sont morts aussi, ou ont été faits prisonniers, etc. Moi, ils vont faire des bénéfices qui peuvent aller jusqu'à 1200%.
De manière incroyable. Toujours, ça bénéficie aux actionnaires. Hein. Et donc, on retrouve des tracts incroyables d'ouvriers qui disent « mais ça suffit, donc il y a moins de monde, il y a moins de monde, donc on travaille plus. » C'est des semaines qui parfois atteignent 60-70 heures de travail pour un travail où il faut être très attentif. Enfin, c'est une folie, c'est une exploitation.
Oui, et puis il ne faut pas oublier que les gens qui sont là en tant que salariés, ils sont pas loin du Front populaire quand même. Ils sont pas loin des espoirs. Ils sont dans la lutte, de toute façon, la lutte sociale évidente.
Et ce qui se passe, c'est que, je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est que le statut des employés de la STCRP était très proche de celui des fonctionnaires, parce qu'il y avait un contrat comme ça avec la ville de Paris. Donc, il avait été obligé d'appliquer les lois du front populaire. Donc, l'occupation arrive très bien. Lucien Nachin va pouvoir faire son épuration et
des récalcitrants
et extraire les bons éléments.
Ah oui, mais alors je voulais lire un petit passage. Il y a des choses qui... C'est étonnant, hein, les papiers, les lettres, hein, parce que ça permet de voir beaucoup de choses. Hein, c'est pas des... Alors bon, il y a une note de 41 signée par Lucien Nachin. Il y a tout un tas de choses où il faut, en fin de compte, évacuer. Et on dit, on cite, la faiblesse physique, intellectuelle ou morale, rendant inapte à collaborer à l'ordre nouveau. Inapte à collaborer à l'ordre nouveau.
C'est clair, il n'y a même plus à discuter.
Insuffisance paraissant devoir compromettre le succès de l'œuvre entreprise, incapacité ou inertie rendant les services nettement insuffisants, la grève de la lenteur, là il faut faire attention, manifestation d'activité extra-professionnelle incompatible avec l'exercice normal de la fonction, on met beaucoup de choses derrière, hein. En raison de l'urgence, ces rapports et les propositions des directions devront être envoyées à la direction administrative du personnel pour le 21 mars à 12h. Donc là... Là, c'est pareil, c'est du rationalisme, hein, on l'a dit. Hein, il était bon dans l'organisation.
Tu as raison, parce que là, on comprend très bien qu'il est central dans l'entreprise.
Il est central. Et donc, effectivement, ces rapports arrivent. Et c'est comme ça qu'on a vu le fonctionnement avec la préfecture de police. Donc, ça, c'est envoyé aux différentes directions. Donc, dans les ateliers, l'exploitation, la gestion, les choses, etc. Les rapports arrivent chez Lucien Nachin. Il les transmet au président de la société avec le nom de toutes les personnes qui ont fauté. Et c'est le président de la société qui l'envoie à la préfecture de police, la liste des gens à arrêter.
Chaque jour.
Donc là, c'est quand même un engagement réel. Et puis c'est un engagement politique, hein, de toute façon.
C'est un engagement politique et c'est... Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que la compagnie du métro, elle, ne fera pas ça. C'est ce qu'on a vu. Et d'ailleurs, bon, il y a ces films, Le Dernier Métro. Le métro a une importance absolument centrale pendant la guerre. Donc, les Allemands ont oublié d'être bêtes. Ils ont compris aussi qu'il fallait que les gens puissent circuler, que les gens puissent aller travailler. Donc, le métro...
Et donner l'image d'un Paris préservé. Qui continue de vivre, parce que c'était aussi la stratégie des Allemands dans leur vision de l'occupation de la ville qui devait être quand même le Walt Disney de l'Europe. C'était le lieu de détente pour tous les soldats qui étaient sur le front de l'Est. Donc, de donner l'illusion d'une vie agréable avec des jolies parisiennes qui continuent à s'habiller, avec le métro qui fonctionne. Si les bus ne fonctionnent pas, après tout, c'est pas dramatique. Ce qu'il faut, c'est que donner cette illusion. Donc finalement, on lâche plus de lest au niveau du personnel du métro, qui lui va pouvoir d'ailleurs organiser une résistance beaucoup plus forte.
Oui, parce que c'est quand même assez, c'est le massacre. Là, j'ai une lettre d'un d'une personne là qui justement comprend pas, s'il comprend, mais va écrire: Monsieur, comme récépissé à votre lettre recommandée du 21 avril 1941, je suis très surpris que vous ayez pris une telle mesure contre moi et vous demande le motif de votre décision. Je crois que dans vos statuts, l'on est révoqué que si l'on a subi une condamnation. Pour mon compte, j'en ai pas subi. J'ai été arrêté le 6 février sans aucune inculpation et vous me prévenez de cet arrêté 2 mois et demi plus tard. Il est viré. Quand ma femme est intervenue, on lui a répondu que l'on ne pouvait rien faire pour moi. Depuis cette date, je ne sais ce que sera mon sort. En ce sens, je vous serai très obligé de régler ma situation, car ma femme, etc. etc. Réponse. Je, sous-signé, directeur du personnel de la STCRP, certifie que M. Louis Perrier, chaudronnier demeurant 113-1, révoqué à compter du 6 février 41, ne perçoit plus depuis cette date aucun traitement. Voilà, il n'y a pas d'explication. Hein.
Rien, c'est...
C'est simplement, bah, vous avez un papier comme quoi vous avez besoin d'argent, on vous le fait. Mais voilà, et donc ça, c'est quand même...
C'est une caserne.
C'est une épuration interne dans la société.
Ça fait froid dans le dos. Ce qu'on a lu, c'est vraiment, parce qu'on se partageait un peu le travail avec Jean-Marie, à la fois de la recherche, et puis on communiquait dessus. Et c'est vrai que moi, j'étais, je lisais tous les témoignages que je pouvais voir des employés qui ont pu témoigner. Et c'est vrai qu'il y a des moments, c'est à la limite du supportable. Enfin, vraiment. Et on voit qu'il y a des gens qui ont essayé qui ont refusé le STO, qui vraiment ont été courageux et qui se sont retrouvés d'ailleurs certains conducteurs de bus qui s'en sont retrouvés dans l'autobus. C'est-à-dire que le bus est devenu le fourgon cellulaire. Certains sont morts à Auschwitz, ont fait partie des déportés politiques. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que dans toutes les plaques commémoratives qu'on voit dans des lieux comme Championnet, etc., on ne sait pas, on parle des morts, mais on ne sait pas qui sont les morts. Est-ce que c'est les morts de la guerre de 39-40? Est-ce que c'est les morts de ceux qui ont été envoyés en déportation parce qu'ils ont été, ils ont refusé de collaborer? Est-ce que c'était des résistants? Est-ce que c'était des juifs, des francs-maçons, des gaullistes? On ne sait pas.
Gitans,
et tout ça est mélangé. Et est-ce que c'était certains qui sont morts au moment des bombardements américains, des alliés, au moment de la libération de Paris? On ne sait pas. Tout ça est mélangé. Et donc ça,
oui, mais ça permet d'effacer l'histoire.
Bien sûr, mais c'est pour ça que ça donne une impression de malaise très, très grand. Et il y a le cas d'un ouvrier qu'on cite qui a fait la guerre de 14, qui a été dans la résistance jusqu'au bout et qui est réintégré dans la société de la RATP qu'en 1948. Donc c'est vrai qu'il y a des... je crois que c'est très important de montrer que effectivement, certains n'avaient pas le choix et ont collaboré et ont accepté de conduire les autobus. Mais que ces personnes qui ont tenu tête à cette direction implacable, eh bien cela, on ne s'en souvient pas. Et ça, je crois que c'est vraiment très, très important et c'est ce qui m'a fait le plus mal. Pas le plus mal, mais disons que je me dis, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour se rappeler de ces noms? Parce qu'il y a des centaines de noms que j'ai lus. J'en cite quelques-uns, justement, ce Louis Perrier, d'autres. Mais tout d'un coup, on est submergé. Et c'est vrai que je trouve que la RATP actuelle... ce serait formidable qu'il y ait des vrais... une séparation entre ces lieux de
les destins. Les destins de chacun.
Les destins de chacun, qui sont différents.
Mais comme tu dis, c'est une manière de...
Là, c'est vrai qu'on voit qu'il y a une vraie organisation. La première partie se fait en effet sur la pression sur le personnel. Très clairement, là, le petit texte que j'ai lu au début, c'est que, en gros, vous allez dans le sens que je vous dis... Sinon, vous êtes purgé. Absolument. Or, c'est quand même une époque où c'est un peu difficile de vivre et ça ne donne pas vraiment de choix. Quoi, je veux dire. On, là, on voit bien un pouvoir autoritaire et qui est mené par Nacha, hein, très clairement, hein, puisque clairement. Vu la position. Je veux dire, c'est quand on voit que c'est vrai qu'il y a des moments où il y a quand même 25 000 personnes et tout, ça lui donne un pouvoir. Donc, c'est vrai qu'on on va voir des documents administratifs. Mais c'est vrai qu'après, à travers les documents administratifs, on voit beaucoup de choses. Et là, il y a une purge complète. Ça, c'est clair. Comme tu dis, résistant, communiste.
Gaulliste
aussi, bien entendu. Et puis, ça va très loin. Je veux dire, faut pas dire un mot quand même. Hein. Faut rien dire parce que, visiblement, ça se passait très vite. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui aurait rapporté des mots, elle s'est terminée. C'est bon parce que quand il envoie sa note de recherche, c'est très clair, c'est fait pour rationaliser.
Tout de suite.
Et puis, on cite quelqu'un qu'il avait sous ses ordres qui s'appelait Jean Châtelet, qui était donc, qui lui a été aussi épuré, donc ça fait partie des... Et Jean Châtelet, on a le témoignage de quelqu'un qui faisait signer, donc c'est pas Lucien Nachin qui fait signer, qu'il fallait signer un papier, qu'on n'était ni juif, ni communiste, ni franc-maçon,
Qu'on ne faisait pas de propagande. Contre le régime.
Contre le régime en place. Voilà. Et donc, ces papiers administratifs signés par les employés étaient transmis à Lucien Nachin. Et puis, quand il y a eu le moment du STO, donc on cite ce Jean Châtelet veut envoyer quelqu'un au STO et l'employé dit non, je ne veux pas travailler pour les Boches. Et Jean Châtelet lui dit vous n'avez pas le choix, c'est ça.
Non. C'est même pas dehors.
Non, c'est pas dehors.
Ou dénoncer.
Non, vous vous retrouvez dans un wagon.
Oui, hein. C'est ça, dénoncer quoi.
En tout cas, dans un bus, en prison et après peut-être dans un wagon. Donc c'est vraiment un côté implacable, implacable qui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que là je crois que, pour être vulgaire, je crois qu'il a pris son pied à appliquer ce qu'il aurait voulu appliquer dans une guerre qu'il n'a pas fait. Et c'est épouvantable. Donc c'est pour ça, nous... Après la parution de ce livre, on a eu droit à tous les commentaires sur se rendait-il compte de ce qu'il faisait, des conséquences, etc. Je réponds souvent, mais peu importe. Déjà, sur le fonctionnement, sur la stratégie, sa propre stratégie vis-à-vis de ses employés, c'est déjà impossible, c'est déjà intolérable.
Et puis, de toute façon,
suite est encore pire.
Oui. Et puis, ça coupe court à toute discussion, parce que c'est quand même incroyable. Nous, les réactions qu'on a eues, quand on vous renvoie, mais est-ce qu'il savait, ça empêche de réfléchir. C'est vraiment, la question n'est pas là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est montrer comment fonctionnait un système et qu'il sache ou qu'il ne sache pas. Maintenant, on sait, parce que les historiens ont montré que tout le monde savait, le monde à ce poste-là savait. C'est vraiment refuser la réflexion de dire « Ah, mais est-ce qu'il savait ?»
Et alors, on grimpe évidemment d'un grade dans l'horreur, évidemment, avec la rafle du Veldiv.
Je propose qu'on se pose fasse une petite
C'est
pause.
Mieux.
Voilà. Donc, on va se faire une petite pause musicale autour du livre « Les bus de la honte hein, », Jean-Marie Dubois et Malka Markovic, édition Talendier. Pour nous joindre, le 01 43 71 89 40.